Ah, que Dieu soit béni. Nous avons chanté avec plaisir ces cantiques qui portent nos regards et nos cœurs surtout vers le Seigneur Jésus. C'est dont il va nous être question ce soir. On va continuer notre série sur Jésus et on va lire deux textes d'introduction. Tout d'abord, un texte que nous avons lu il n'y a pas longtemps dans Actes 4, à partir du verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Nous lisons notre second passage d'introduction dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, à partir du verset 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici, mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Amen. Nous allons donc continuer ce soir notre série sur Jésus. On a dit déjà plusieurs choses. Et la semaine dernière, vous vous en rappelez, peut-être du moins pour ceux qui étaient là, que nous avons parlé de la dignité de Jésus. Jésus est digne. Alléluia. Il est digne d'être loué, d'être adoré, que son nom soit élevé. Après avoir vu la dignité de Jésus, nous allons voir ce soir le fait que Jésus est appelé le serviteur de Dieu. Il est digne en effet, comme nous l'avons vu la semaine dernière, il est celui qui est au-dessus de tout, il est le Créateur, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Mais en même temps, Jésus est considéré comme le serviteur de Dieu. S'il est digne, il est aussi celui qui est humble. Il est fils de Dieu et serviteur. Il est roi et serviteur. Seigneur, sauveur, serviteur. On lira d'autres textes ce soir, mais déjà, dans ces deux textes, nous voyons Jésus qui est présenté comme le serviteur de Dieu. Ça avait été annoncé prophétiquement par Ésaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, dans Ésaïe 42, mais pas que. Et puis aussi dans le psaume 2, cela avait été annoncé par David, que l'apôtre Pierre va reprendre un peu plus tard. Dans le texte que nous avons choisi, dans Acte 4, on voit qu'il est fait référence à ce psaume 2, et il est dit en suivant, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Donc Jésus est appelé le saint serviteur de Dieu qui a été oint. Jésus nous est donc présenté comme le serviteur de Dieu. Qu'est-ce que évoque pour nous le terme serviteur ? Les traits de caractère d'un serviteur, un des premiers traits de caractère, c'est bien sûr l'obéissance. Et Jésus s'est montré pleinement obéissant à celui qui l'a envoyé, et il a été aussi, et nous allons le voir, plein de confiance envers celui qui l'a envoyé et plein de compassion. Dans Philippiens chapitre 2, on a à plusieurs reprises durant cette étude sur Jésus lu ce texte, car en résumé, ce texte évoque beaucoup de choses sur Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme ou une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes et apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce passage extraordinaire, parce qu'il nous rappelle qui est Jésus et ce qu'il a fait. Il est celui qui est au-dessus de tous, il a été souverainement élevé et son nom est au-dessus de tous, afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Tous les genoux fléchissent, même les nôtres, et surtout les nôtres. Mais dans les cieux et sur la terre, tous les genoux fléchiront devant Jésus. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc il nous montre la grandeur de notre Seigneur, mais aussi ce qu'il a accepté de faire pour chacun d'entre nous. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur, une condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes et il s'est rendu obéissant. Il s'est humilié lui-même. Ce qui fait un serviteur, c'est son obéissance. Sinon, c'est un mauvais serviteur. Si un serviteur n'obéit plus, c'est plus un serviteur. Quand bien même il en aurait le titre, il n'en aurait plus le cœur. Et Jésus s'est rendu pleinement obéissant, et il est précisé ici, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Il a accompli tout ce que son Père lui a demandé de faire. Aussi, sur la croix, Jésus s'est-il écrié, « Tout est accompli ». Il a accompli toute la volonté de son Père. Et comme il est écrit dans Jean 5, verset 30, il n'a pas cherché sa volonté, mais celle de son Père. Et bien qu'il soit fils, il s'est rendu obéissant, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc Jésus a été pleinement obéissant, il a toujours été prompt à faire la volonté de Dieu. On peut être obéissant, mais vous savez, en murmurant un petit peu, je le fais, mais à contre-cœur. Je le fais, mais j'hésite à le faire. Je le fais, mais je ne suis pas content de le faire. Mais Jésus l'a fait, et il a été prompt à le faire, et son cœur voulait bien le faire. Et prenait plaisir à le faire. Il a accompli la volonté de son Père, parce que son cœur aussi était plein de confiance envers son Père. Il ne peut y avoir de parfaite obéissance sans confiance à celui qui nous donne un ordre. Jésus a été pleinement confiant en son Père. Il savait que son Père pourrait le délivrer des liens de la mort. Il s'en est remis à celui qui juge justement. Et il s'est écrié encore sur la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ayant accompli toute la volonté de Dieu, il s'en remet à lui totalement. Il a été pleinement confiant dans son Père qui lui a donné comme mission de venir sur la croix pour nous sauver. Il a accompli toute la volonté de son Père. Que son nom soit glorifié. Amen. On comprend pourquoi il est appelé le saint serviteur de Dieu. Et ce qui fait la force de l'obéissance, c'est non seulement la confiance, mais l'amour. Jésus a obéi à son Père, pas d'une manière servile, mais par amour. Aussi, quand le diable va le tenter afin qu'il se prosterne devant lui et l'adore, Jésus va répondre au diable. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va lui rappeler un commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Vous connaissez la suite? Et tu le serviras lui seul. L'amour qu'on a pour Dieu est étroitement lié à notre service, ou plutôt l'inverse. Notre service est étroitement lié à l'amour que nous avons pour Dieu. On ne peut pas servir de Dieu, ce n'est pas possible. Si notre cœur est attaché à Dieu, c'est lui qu'on va servir. Mais si notre cœur est attaché à Mammon, par exemple, on peut être attaché à autre chose, hein, mais pour reprendre les paroles de Jésus, si notre cœur est attaché à Mammon, à ce Dieu de l'argent, alors nous allons servir ce Dieu-là. Servir ce Dieu-là. Notre cœur est attaché au Seigneur. À l'exemple, à l'image de Jésus qui a adoré son Père, qui était attaché à son Père, tu le serviras lui seul. Tu le serviras lui seul. S'il n'y a pas cet amour, qu'est-ce qu'il y a à la place? Non seulement il a servi Dieu par amour, mais l'œuvre qu'il l'a faite, il l'a faite par amour et compassion pour nous. Comprenons bien cela, que on peut soit se comporter comme un mercenaire, quelqu'un qui est payé pour accomplir une tâche, mais qui n'en a rien à faire de ce qu'il fait, soit on se comporte avec un cœur, on est attaché à celui à qui on obéit et on aime ce que l'on fait. Or, Jésus nous a aimés. Alléluia. Et il nous le dit dans la parabole du bon berger, dans Jean chapitre 10, à partir du verset 12, vous pourrez le lire. Il a donné sa vie pour ses brebis. On voit donc que l'amour de Jésus avait une direction vers son Père, mais aussi pour nous, il a donné, il nous a aimés. Il dira, le mercenaire qui voit venir le loup, il s'enfuit parce qu'il ne se met pas en peine des brebis. Il y a cette manière de servir du mercenaire. Le mercenaire, il reçoit un salaire, c'est ce qui compte pour lui, c'est tout. Mais s'il voit un danger venir dans ce qu'il fait, s'il voit un risque, il va partir. Il n'en a rien à faire. Il n'est pas attaché à ce qu'il fait. Il est attaché, à son compte en banque, c'est tout. Mais le bon berger, lui, qui nous montre l'exemple, s'il voit venir le loup, il ne va pas s'enfuir. Il est attaché à ses brebis. Il aime ses brebis, donc il va protéger ses brebis. Il a compassion de nous. Alléluia. Il a compassion de nous. Merci Seigneur. Nous comprenons pourquoi encore il fut appelé le saint serviteur de Dieu. Un serviteur doux et humble de cœur. Dans certaines paraboles, Jésus met en scène, même dans plusieurs paraboles, Jésus met en scène des serviteurs qui se sont mal comportés vis-à-vis de leur maître. D'autres se sont bien comportés. On a l'exemple de la parabole des talents. Il y avait un serviteur méchant et paresseux. méchant et paresseux. Et il a caché le talent que lui avait confié son maître. Hein. Un serviteur méchant et paresseux. Dans d'autres paraboles, on voit des serviteurs qui sont devenus durs et violents envers leurs compagnons. Mais ce ne fut pas le cas de Jésus qui est doux et humble de cœur. Dans le texte que nous avons lu, dans le second texte tout à l'heure, il est dit « Il ne contestera point, il ne criera point. » Il est dit encore qu'il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume encore. Nous voyons la douceur de Jésus et son humilité. Nous voyons encore cette douceur et cette humilité dans Jean chapitre 13, le lavage des pieds. On va lire un extrait de cet épisode dans Jean chapitre 13, verset 13. Jean 13. Verset 13, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous avez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » On a eu simplement la conclusion de cette parabole, de cet épisode des évangiles, où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Quand on lit un petit peu la scène de ce qui s'est passé, Jésus a ôté ses vêtements, il a pris un linge dont il s'est saigné, le verset 4, il a versé de l'eau dans un bassin, il s'est mis à laver le pied de ses disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Quand on lit cela, c'est rapide à le lire, mais on s'imagine la scène, ils étaient au moins 12. On peut supposer qu'il y avait quelques autres disciples. Quand on lit d'autres passages de la... parce que c'était là à l'occasion de la célébration de la Pâque, il y avait quelques personnes en plus, ils étaient certainement un petit peu plus que 12. Bref, même s'ils étaient que 12, c'est le temps de laver les pieds de 12 personnes, ça fait 24 pieds, hein, si j'ai bien compté, le temps de les essuyer, de mettre l'eau dans les bassins, etc., c'est quelque chose qui a dû durer quand même plus d'une demi-heure. Et pendant une demi-heure, minimum, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'était le rôle des serviteurs. C'était le rôle des serviteurs. D'ailleurs, on peut se demander, mais tiens, pourquoi ça n'a pas été fait déjà ? Parce que ça, on le faisait... dès le départ. N'y avait-il personne pour le faire ? Curieux, hein ? N'y avait-il pas de serviteur dans cette maison pour le faire ? Ça n'a pas été fait. Ou peut-être que les autres apôtres ne voulaient-ils pas aussi le faire les uns aux autres ? Il n'y avait peut-être pas de serviteur dans cette maison, mais c'était de coutume de le faire. Et c'est Jésus qui était le maître et seigneur qui l'a fait, qui l'a fait. On sait que parfois les disciples se sont un petit peu chamaillés pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Mais Jésus leur montre là que lui qui est véritablement maître et seigneur s'est comporté comme un serviteur et a lavé les pieds de ses disciples. Il est doux et humble de cœur. Amen. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. On peut lire ce texte que nous connaissons dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 35. oui, à partir du verset 35, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Ah, ils avaient de l'ambition, ceux-là. Hein. Verset 38. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez ce qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » À la prière de Jésus, pour être assis à droite ou à gauche, que ses apôtres ont fait, Jacques et Jean, Jésus va répondre ceci que nous avons lu. Il va prendre l'exemple de ceux qui dominent les nations et il est dit, les grands, les chefs des nations les tyrannisent. Voilà comment ils se comportent. Et ça a toujours été comme ça quand on regarde l'histoire de l'humanité. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe, on le voit bien dans certains pays, hein, on le voit bien. Les chefs des nations les tyrannisent, c'est comme cela qu'ils se comportent. Mais notre Seigneur, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, lui ne se comporte pas ainsi, il est doux et humble de cœur. Et il nous amène, et il amène ici ses apôtres, il amène Jacques et Jean, mais pas que eux, les autres aussi, ses disciples qui sont là, à porter les yeux sur lui par rapport à son exemple et il va conclure en disant « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand, et s'il y en a un qui est grand, c'est bien Jésus. Hein. Mais certains avaient de l'ambition. Voilà, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » C'est comme ça qu'il doit se comporter. Non pas comme quelqu'un qui domine, qui tyrannise les autres, mais comme un serviteur à l'exemple de Jésus qui était doux et humble de cœur. Amen. Quel bel exemple pour chacun d'entre nous. Jésus donc est le serviteur de Dieu, un serviteur doux et humble de cœur. Jésus est serviteur, il ne s'est pas auto-proclamé serviteur. Il a été oint, nous l'avons lu tout à l'heure, contre ton saint serviteur Jésus, et il est précisé que tu as oint. Or, dans Acte 4, quand cela est précisé, ça fait référence à ce qui vient d'être dit, il a cité le psaume 2, où il est dit que les chefs des nations se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Le mot « oint » a donné le mot « messie » qui vient de l'hébreu et « Christ » en grec. Quand on dit « Jésus-Christ », en grec c'est « Jésus, celui qui est oint ». C'est bien ça qu'il faut comprendre. Pareil quand on dit « Jésus le Messie », ça veut dire « oint ». C'est un terme qui a été un peu francisé là. Mais c'est « Jésus, celui qui a été oint ». Dans la Bible, quand des hommes recevaient une onction, cela désignait celui qui avait été choisi par Dieu pour accomplir un service particulier. Par exemple, les souverains sacrificateurs étaient oints. Les sacrificateurs aussi étaient oints. Des prophètes ont été oints, des rois étaient oints. David a reçu une onction. David a reçu une onction. Jésus ne s'est donc pas autoproclamé serviteur, comme font certains aujourd'hui, serviteurs de Dieu, ils s'autoproclament eux-mêmes serviteurs de Dieu. Mais Jésus ne s'est pas autoproclamé serviteur de Dieu, il a reçu l'onction de Dieu lui-même. Lorsqu'il est venu voir Jean-Baptiste, par exemple, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il a reçu l'onction. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint, dira Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pauvre, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a reçu donc une onction. Les Juifs attendaient ce serviteur qui était oint. On le voit dans les paroles de Jean-Baptiste, on le voit aussi dans les paroles de Siméon. Il attendait, le peuple juif attendait ce Messie. Et quand il dira à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Pierre va dire, « Tu es le Christ. » Alors, en français, on ne voit peut-être pas, mais dans le terme original, « Tu es celui qui est loin. » »« Tu es loin. » »« Celui qu'on attendait. » »« Celui qu'on attendait. » »« Loin qu'on attendait. » »« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Merci Seigneur. Il s'est fait notre serviteur. On a du mal à le considérer. Surtout quand on a l'image de ce que nous sommes en réalité, des êtres si petits, si infimes. Qu'est-ce que nous sommes ? Une vapeur qui paraît pour un temps. Et rappelons-nous ce que la parole de Dieu dit, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Il s'est fait serviteur d'hommes et de femmes qui sont dans le péché. Merci Seigneur. Alors, je dirais, et je rappellerai ce verset que nous avons lu tout à l'heure dans Philippiens, « Ayez en vous, ayant en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Amen. Qui sommes-nous pour prétendre à être supérieurs aux autres ? S'il y en a un qui est supérieur, c'est bien Jésus. Il est bien véritablement maître et seigneur. Il est seigneur des seigneurs, roi des rois, fils de Dieu, digne, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Et lui s'est fait notre serviteur. Notre serviteur. Acceptant l'inacceptable pour chacun d'entre nous. Il a accompli ce que nous ne pouvions pas accomplir pour chacun d'entre nous. Jésus nous met un exemple, comme nous l'avons lu tout à l'heure, afin que nous fassions comme lui, que son nom soit béni. Alléluia. Oui, notre regard sont portés sur Jésus, sur tout ce qu'il est. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est digne. Jésus est celui qui est tout-puissant. Et Jésus s'est fait notre serviteur. Que ton nom soit glorifié. C'est une raison de plus de glorifier celui qui nous a aimés. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que toi, tu as accompli toute la volonté de ton Père céleste par amour pour chacun d'entre nous. On va terminer notre réunion en remerciant de tout notre cœur le Seigneur Jésus. Merci Seigneur de t'être dépouillé. Comme nous l'avons lu, tu t'es dépouillé, Seigneur. Tu as pris une condition de serviteur. Tu t'es humilié toi-même, te rendant obéissant jusqu'à la mort, Seigneur. Tu as été jusque-là dans ton obéissance. Par amour pour ton Père qui t'a envoyé, par amour et compassion pour chacun d'entre nous. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, le Seigneur et Seigneur des Seigneurs, tu as accepté cela. Tu as accepté d'être notre serviteur. Nous te bénissons, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos cœurs encore par ta parole. Façonne-nous, afin que nous puissions te ressembler de plus en plus, Seigneur. afin que nous soyons serviteurs les uns des autres, comme nous dit ta parole, et que nous puissions le faire avec joie, sans contrainte, par amour pour toi et pour ton œuvre et nos frères et sœurs en la foi. Ô béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit encore glorifié dans ce lieu et dans nos cœurs. À toi la gloire, Jésus. Amen, amen.